On m'a dérobé mon argent.
Pascal Paradou.
C'est la rentrée, on révise ses classiques et quoi de mieux que d'aller entendre et voir l'avare de Molière, celui qui aime l'argent plus que tout, dans la nouvelle mise en scène de Clément Poiré au Théâtre de la Tempête. Bonjour Clément Poiré.
Bonjour.
Pourquoi Molière? Parce qu'on sait tout déjà, on a les répliques en tête, on reconnaît tout. Pourquoi Molière?
Alors, pourquoi Molière? Bah, déjà, par passion, hein, parce que Molière, c'est notre fond, c'est vrai, mais c'est aussi un génie, et en tant que tel, un visionnaire incroyable qui vient parler vraiment avec tellement de pertinence de quels sont les archétypes dans lesquels on vit aujourd'hui qu'on se demande à quel point les gens du 17e comprenaient quelque chose aux pièces qu'ils voyaient, tant il a l'air de s'adresser à deux, trois siècles plus tard à des spectateurs de notre époque.
Alors vous dites Molière, c'est le fond, mais en même temps, c'est la première fois que vous mettez en scène un spectacle de Molière. Comment on l'aborde? Comme si c'était la première fois, comme si c'était un jeune auteur?
Oui, c'est-à-dire que y a plusieurs manières d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir un souci important de qu'est-ce qui a été fait. L'avare est beaucoup, beaucoup monté depuis longtemps. Il a été joué dans de très grandes mises en scène et par des très grandes actrices, des grands acteurs, pour Harpagon. Mais c'est pas mon abord naturel, c'est-à-dire moi j'ai toujours tendance à prendre les pièces comme en effet quelque chose à défricher, quelque chose de nouveau et de les voir avec les yeux d'une certaine manière, d'une certaine enfance. C'est-à-dire que c'est aussi, on est nos premiers spectateurs et les spectateurs et spectatrices qui m'intéressent, c'est celles qui sont encore vierges de toute connaissance. Parce que je considère que même quand on connaît très bien et quand on se replonge, quand on tombe face à Molière, on est ramené à cet endroit de découvrir une pièce pour la première fois.
Donc ce n'est pas un monument que vous mettez en scène, c'est un texte qui a un auteur qui s'appelle Molière, mais qui nécessite quand même, dans le cas de l'avare, d'avoir une distribution à la hauteur, parce qu'il faut pouvoir jouer l'avare. Et en l'occurrence, dans votre mise en scène, c'est John Arnold, qui a une carrière d'acteur assez formidable depuis les années 80. Hein. Il a joué sous la direction d'Ariel Mouchkine, d'Olivier Py, de Joël Pomerat, de Wajdi Mouawad, de Braunschweig et j'en passe. Et il a joué Shakespeare, Corneille, Goldoni, Marivaux. Mais c'est vrai que pour lui, c'est la première fois qu'il joue à Molière, si j'ai bien regardé sa biographie.
À peu de choses près. C'est-à-dire que, en effet, le plus important quand on monte l'avare, c'est d'avoir son avare. Et la naissance même de cette aventure, elle vient du désir de John, qui est un acteur que j'estime énormément. Vous avez rappelé rapidement son incroyable carrière. Et c'est un grand artiste et artisan de nos scènes. Et il se trouve qu'il a découvert le théâtre au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine, mais aussi avec Michel Bouquet.
Et c'était son prof, je crois.
C'était son prof. Et c'était un peu son père de théâtre, lui qui est arrivé par effraction dans le théâtre et donc il a commencé à suivre les cours de Michel Bouquet au conservatoire en auditeur libre pour apprendre son métier et il se trouve qu'il a été engagé dans l'avare joué par Michel Bouquet et il jouait le rôle de son fils, c'est-à-dire Clérante. Alors donc il a déjà joué Molière il y a très très longtemps et il a joué même l'avare un certain nombre de fois et puis quand Michel Bouquet nous a quittés John avait justement l'âge qu'avait Michel à l'époque de cette mise en scène et aussi l'âge du rôle. Et donc, il a commencé à me dire, bah, tu sais Clément, un jour, voilà, j'ai un rêve, quelque chose qui importe énormément pour moi dans mon parcours d'acteur, c'est de jouer Harpagon.
Donc, c'est une histoire de transmission, en fait.
Absolument.
Alors, dans votre mise en scène, Clément Poiré, c'est le texte, hein, rien que le texte à deux, trois détails près. Mais il n'y a pas que le texte, parce que vous collez à l'esprit d'Harpagon, vous faites un spectacle économe. Vous demandez, vous en riez, radin même, vous dites, vous demandez aux spectateurs d'apporter la déco et les costumes. Donc, qui arrive avec sa vieille chemise, c'est mon cas, un bijou, un chapeau, un jouet pour enfant, un livre, une casserole, un pantalon. Alors, les pantalons sont très prisés parce que les acteurs vous accueillent, enfin accueillent le public en slip et ils ont quand même très très envie de ne pas rester dans cet appareil pendant trop longtemps, donc ils réclament des pantalons. Vous faites quoi ? Du réemploi, du recyclage ?
Ah oui, alors oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'on fait du réemploi, d'autant plus que, en effet, pour cette aventure-là, on s'est associé, on a cherché des partenaires qui travaillaient cette question beaucoup mieux que nous. On l'a fait par malice, disons, parce que on cherche toujours un principe qui actif pour animer les questions qui sont autour d'une pièce. Et donc, on a beaucoup cherché. On a rencontré les personnes de la Petite Roquette qui sont en effet une ressourcerie qui s'occupe majoritairement de réemploi. Et s'ils ne peuvent pas réemployer, se débarrasser autrement des affaires, mais de réemploi principalement. Donc, de donner une seconde vie aux objets qu'ils ont reçus et puis qu'ils peuvent comme ça, après, redistribuer de façon solidaire. Et donc, en effet, nous, on a notre petite part là-dedans, bien modeste, de réemploi artistique le temps de la représentation. C'est-à-dire qu'en effet, on part en slip, hein, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que sur scène, on a des ateliers, des outils et surtout, toute l'équipe artistique qui, d'habitude, a travaillé pendant les répétitions, a préparé, a créé costumes, lumières, scénographie, accessoires, perruques, que sais-je. Et bien là, tout le monde est au plateau, au même titre que les interprètes.
Ils coupent, ils cousent les pantalons, les chemises, les foulards.
Ils agrafent, ils collent. Durant le temps de la représentation, c'est-à-dire qu'on repart tous les jours à zéro, et donc on fait un théâtre en effet pauvre autour de cet Harpagon qui veut absolument tout garder par lui-même. Et puis la représentation, elle va dépendre complètement, selon les soirs, de la générosité ou non du public. Et c'est assez drôle aussi quand le public est radin, ce n'est pas une critique, puisque de toute façon cette question, ce concept a beaucoup beaucoup bougé.
Alors on va parler de ce concept. Vous signez un classique à la sauce radin, c'est donc l'avare. Je vous propose un classique à la sauce slam, c'est Aznavour, version Grand Corps Malade.
Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, deux trois poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde a dû nous voir, il nous a offert l'espoir, c'est un bon commencement.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire on est heureux. La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème entre galère et poème, à chacun sa bohème. Souvent il m'arrivait devant mon cahier de passer des nuits blanches, noircissant toutes ces pages avec excitation presque comme une revanche. Scander des poésies, quelle jolie fantaisie face à des presque frères. Sans enjeu précis, se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée. On a laissé une trace en hurlant nos histoires à la gueule du monde. Je vous parle d'un temps dont je ne changerai pas une seule seconde.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
vous parle d'un temps.
Ça voulait dire, on est heureux.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire,
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire et ce pincement extrême. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
À chacun sa bohème, Grand Corps Malade sur RFI, dans l'attente d'un prochain album en octobre. Clément Poiré, en proposant une nouvelle mise en scène de L'Avare de Molière, vous nous avez dit que vous redémarrez à zéro comme un enfant qui découvre ce texte. Mais est-ce que vous avez quand même en mémoire, en tête, dans l'œil, tous ceux qui ont incarné Harpagon? Molière en premier, en 1668, au moment de la création. Michel Bouquet, bien évidemment, vous l'avez cité. Mais il y a par exemple au cinéma Louis de Funès, qui a été un Harpagon absolument exceptionnel. Est-ce que vous pouvez faire abstraction de ça ou vous jouez avec ça, au contraire?
Alors, je dirais que autant moi, je fais abstraction de ça, autant il est important pour John Arnold, qui l'incarne, de converser avec toutes ces grandes figures, ces grands acteurs qui ont joué le rôle au cours des années, que lui connaît extrêmement bien et avec qui, d'une certaine manière, quand on incarne le rôle, on converse, en effet, on dialogue.
Alors vous dites dialoguer, moi j'ai l'impression que c'est rentré un peu dans la peau, dans le corps, dans la silhouette d'Harpagon, parce qu'il y a un Harpagon. D'ailleurs, à propos des costumes, vous trichez un peu, parce que Harpagon a un vrai costume de théâtre avec des souliers à boucles, une collerette blanche, un costume noir. Donc ça, c'est votre costume, ce n'est pas apporté par les spectateurs. Mais du coup, il endosse le profil, il est l'archétype d'Harpagon, tel qu'on l'imagine depuis tout temps.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, étant donné les particularités là de la manière dont on met en scène le Molière, on s'est senti libre aussi d'aller tout droit à l'archétype, parce que d'une certaine manière, les questions de modernisation que parfois on se pose dans une mise en scène, elles sont déjà, nous semble-t-il, vivantes par le dispositif même. Et puis oui, en effet, on a notre Harpagon qui apparaît comme un Harpagon intemporel. C'est le seul qui a un costume, parce que bien sûr c'est lui qui a mis à poil tout son monde, mais lui il conserve tout, bien sûr, et aussi il conserve toute son histoire, et c'est vrai que c'est une figure qui traverse le temps et qui s'impose et qui existe dans notre culture fortement.
Alors, la pièce est une comédie, c'est clair. Vous la direz un peu vers la farce. Comment vous raconteriez l'avare? Est-ce que c'est juste un clown ou il y a quelque chose de plus sombre dans le personnage? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a peur de perdre, qui a peur de tout, qui a peur des autres, qui a peur de la mort.
Absolument. C'est-à-dire que l'avare, Harpagon, est un personnage qui a un désir de vie surdimensionné jusqu'à la maladie. Et il ne veut, comme vous le dites, il ne veut rien perdre, il veut tout conserver et il ne veut rien lâcher, particulièrement aux générations futures, c'est-à-dire en l'occurrence incarnées par ses enfants, tout simplement. Forcément, quand on veut tout conserver, mais on a peur en permanence d'un moindre aboiement dans la cour, on a peur de perdre, on a peur qu'on nous prenne quelque chose, et en effet, c'est quelqu'un qui veut vivre éternellement, qui ne supporte pas que ses enfants deviennent des concurrents et le poussent vers la sortie.
Il souhaite leur mort même, parfois, à un moment. Il dit « Ah bah, s'il meurt avant moi, c'est très bien. »
Plusieurs fois. plusieurs fois dans la pièce. La pièce Molière, c'est quelqu'un de très organisé dans sa pensée et qui aime à faire entendre en plusieurs occasions sa pensée. Et sa pensée, elle est claire. C'est-à-dire qu'on a un Harpagon qui préfère voir ses enfants morts que de se voir vieillir, qui d'ailleurs prétend à l'épouse que désire son fils, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui bouscule les générations et qui veut rien lâcher de sa toute puissance.
Harpagon et son valet La Flèche et toujours cette obsession d'être volé.
Montre-moi tes mains.
Les voilà.
Les autres.
Les autres.
Ouais.
Les voilà.
N'as-tu rien mis ici dedans?
Voyez-vous-même.
Hein? Ces grands autres choses sont propres à devenir les receleurs des choses que l'on dérobe, et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un.
Oh, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie à le voler.
Hein?
Quoi?
Qu'est-ce que tu parles de voler?
Ah, je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé.
C'est ce que je veux faire.
La peste soit de l'avarice et des avaricieux.
La peste soit de l'avarice et des avaricieux, autre réplique célèbre de l'avare. Clément Poiret, comment définir l'avarice aujourd'hui? Parce qu'en faisant un spectacle dont le principe est de recycler et de réemployer les vêtements et les décors, vous semblez faire de cette avarice une vertu.
Eh bien, disons que il est vrai que quand Molière a écrit l'avare, l'avarice était le pire des défauts, c'est-à-dire que...
Ça l'est toujours.
Alors, j'en suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est de quoi parle-t-on? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de phrases dites par Harpagon qui n'en restent pas moins un affreux Jojo.
Parce qu'il est quand même suspicieux, paranoïaque, tyrannique.
Absolument.
Il ne fait pas envie, quoi.
Il ne fait pas envie et en tant que tyran, il gangrène toute sa famille qui se met elle-même à se perdre. Permettre de petit vice sur petit vice. Mais sur les phrases propres de l'avarice qui, à l'époque, faisait rire unanimement, eh bien aujourd'hui, on a des positions qui ont un peu bougé, les paradigmes ont un peu changé. C'est-à-dire, par exemple, quand il reproche à son fils d'avoir pour l'équivalent de 4000 euros de fringues sur lui, aujourd'hui, on serait plusieurs à dire c'est vrai que pour un grand adolescent, c'est beaucoup. Quand il dit ça ne sert à rien de resservir des gens qui sont à satiété, aujourd'hui, on dit, bah oui, on fait faire attention. Et son valet complaisant, Valère, qui dit que une table pleine de viande à l'excès est un vrai coupe-gorge et que c'est mauvais pour les principes de la santé, on y est aussi. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui quand on monte l'avare, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette idée même de dépense et de mesure.
Il serait décroissant. Harpagon.
Harpagon est tout sauf un décroissant, mais de fait, il nous confronte, nous, à notre logique. Et surtout, ce que ça dévoile, c'est que derrière l'avarice, ce dont parle Molière, c'est bien un problème qui est d'actualité et qu'on a évoqué, c'est-à-dire, au fond, la possession, l'arrivée de la famille bourgeoise aussi, hein, au XVIIe siècle, dont il voit tout l'arc de progression nous met face à une situation, c'est-à-dire toutes les possessions sont entre de moins en moins de mains et ces mains sont agrippées dessus et ne veulent plus faire civilisation, c'est-à-dire ne travaillent plus à partager et notamment ne travaillent plus aux générations futures en leur donnant les moyens qu'ils réclament en tant que déjà jeunes hommes et jeunes femmes en état d'avoir le pouvoir.
Donc l'avarice, c'est un accaparement, en fait, dans ce cas-là et dans ce que vous décrivez. Clément Poiret, il y a une coïncidence entre le sujet de l'avare et le parti pris de la pièce, on l'a souligné, mais est-ce que cela vous a converti à un théâtre plus pauvre avec moins de moyens en cette période de coupe budgétaire? Parce que, par exemple, le programme avec la distribution n'est pas imprimé. Quand on rentre dans le théâtre, on n'a rien. Il est juste placardé sur un mur et vous dites que c'est pour des raisons budgétaires. C'est vrai ça ou c'est
non,
un peu d'avarice de votre côté?
C'est un jeu. C'est un jeu. Je ne me permettrai pas de faire de ce grand rendez-vous avec le public, un espace de sujet de discussion sur les politiques culturelles qui sont certes intéressantes, mais qui n'est pas l'endroit où j'ai envie de partager avec le public. Mais disons que, bien sûr, ça a été aussi pour nous l'occasion de nous interroger sur notre propre manière de produire en général, y compris de produire les spectacles. Je ne crois pas que l'économie du spectacle soit au centre de la surconsommation. Et ça, c'est mon point de vue. Cela dit, bien sûr, on s'interroge quotidiennement sur qu'est-ce qu'on fait des costumes qu'on a créés, de ce qu'on appelle les spares, c'est-à-dire les doubles t-shirts, etc., toute cette consommation que ça produit, et comment faire pour trouver des moyens vertueux. C'est des réflexions super intéressantes qu'on est heureux d'avoir.
Cela dit, faire une mise en scène d'un Molière, c'est quand même mettre en avant la langue. Et je trouve que la langue de Molière s'entend particulièrement dans votre mise en scène avec tous ces jeux de mots, ces quiproquos, qui parfois tournent à l'absurde.
Bel amour, bel amour, ma foi! L'amour de mes louis d'or!
Ah non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Oh, ce n'est pas cela qui m'a... ébloui, et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai.
Mais non, par tous les diables, je ne te laisserai pas, mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qui m'a fait.
Appelez-vous cela un vol?
Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là.
Oh, c'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute, mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser, je vous le demande, à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez.
Mais j'en ferai rien, mais qu'est-ce à dire, ça ?
Quand le mot trésor a un double sens, alors ce travail sur la langue est très important. Comment vous l'avez envisagé, ce travail, Clément Poiré ? J'ai l'impression que chez Molière, la langue, le verbe, c'est l'action, en fait.
Absolument. C'est-à-dire que ce qui est génial avec Molière, c'est que c'est un acteur qui écrit. C'est-à-dire qu'il sait exactement, quand il écrit, avec le rythme de ses mots, comment ça va faire jouer, comment ça va jouer. Et comme vous le dites, c'est-à-dire c'est des paroles agissante à tout moment. Disons que son style est afféodé à son désir de jeu. Et forcément, il continue à travailler pour nous et avec nous. Et au fond, c'est Molière qui fait travailler les acteurs.
Et 400 ans après, on continue à rire à l'avare, alors qu'on sait tout ou presque déjà de cette pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose de joyeux à jouer l'avare et à jouer Molière? Il y a des mots quand même qui sont goulayants, des injures savoureuses. Fesse-Mathieu, faquin, marot. Enfin, j'adorerais être acteur et dire ça.
Oui.
Je fais de la radio, je le dis aussi.
Eh bien, absolument. C'est-à-dire que vraiment... Molière a cette puissance-là tellurique qui est celle de la joie. Et pourtant, encore une fois, on l'a dit, on l'a décrit, ce petit monde que d'Harpagon et de sa famille qui se veulent tous une mort prochaine n'est pas réjouissant. Mais pourtant, à jouer, c'est force et joie.
Alors, il n'y a pas que Molière qui est réjouissant, puisque tous les mercredis, je reçois Lucie Bouteloup avec sa chronique hebdomadaire La Puce.
La Puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Alors, si je dois dire que vous êtes avare, je ne vais pas vous traiter d'harpagon, mais je pourrais dire quoi? Que vous avez des oursins dans les poches ou que vous êtes une pince?
Oh et oh, mollo lastico, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi qui ai le cœur sur la main, c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Mollo lastico.
Et paf, là voilà notre expression de la semaine, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, mais pourquoi diable se moquer de la charité? Qui oserait? La réponse dans quelques instants avec Benjamin Rouxel, il est lexicographe pour le Robert. Mais avant, comme d'hab, les explications.
Enfants.
Bravo!
L'hôpital qui se fout de la charité. Moi, je pense que ça veut dire quand les médecins disent « Oh, toi, tu as le coronavirus, il faut t'opérer. Toi, c'est plus grave, tu as le cancer des poumons. » Alors que c'est pas vrai, juste pour payer et pour gagner de l'argent.
C'est un peu comme un prof qui apprend quelque chose. Par exemple, aussi, un constructeur de maison qui est pas capable de faire une maison en Lego. C'est quelque chose d'illogique.
Quand on dit de pas faire quelque chose, alors que toi-même, tu fais ce que tu dis de pas faire. faire. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, là.
Par exemple, les personnes qui s'occupent de toi, elles en ont absolument rien à faire. Elles te donnent un doliprane alors que tu t'es fait les ligaments croisés. Voilà, quoi.
C'est la puce à l'oreille.
Bonjour, Benjamin Roxel.
Bonjour, Lucie.
Alors, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle n'est pas facile, cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, donc?
C'est quand quelqu'un nous adresse une critique alors que cette personne n'est elle-même pas irréprochable.
Alors qu'elle ne fait pas mieux, voire qu'elle fait pire.
Voilà, exactement.
Alors, un exemple concret pour qu'on comprenne bien.
Par exemple, vous avez rendez-vous avec quelqu'un et normalement, cet ami est toujours en retard. Et là, pour une fois, il se trouve que c'est vous qui avez 2-3 minutes de retard. Et lorsque vous arrivez, cet ami vous le reproche, vous pouvez lui répondre du tac au tac. C'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Voilà, surtout que lui, en général, il arrive avec un bon quart d'heure de retard.
Voilà, exactement.
Bon, alors cette expression, elle vient d'où?
Alors, d'abord, il faut reprendre l'origine de chaque mot, en fait, de l'hôpital et de la charité. Charité, car donc l'hôpital au XIIe siècle, c'était un établissement religieux pour l'accueil des plus démunis. C'est du latin hospitalia, chambre pour les hôtes.
Donc ce qui a donné ce fameux mot hospitalité.
Exactement, donc c'était des établissements qui faisaient de la charité en fait.
Puisque la charité, peut-être qu'il faut préciser ce
oui,
que
voilà,
c'est.
Oui, voilà, pour rappeler, la charité dans la théologie chrétienne, c'est l'amour envers son prochain. Donc l'hôpital était un établissement religieux d'accueil et au XVIIe siècle, son sens, le sens du mot hôpital s'est spécialisé car hôpital a commencé à désigner un établissement médical.
Oui, parce qu'au début, donc, dans ces hôpitaux, on ne soignait pas nécessairement.
Exactement, voilà, c'était des établissements d'accueil. Et au même moment, d'autres hôpitaux qui étaient gérés par les frères et les sœurs de la charité, donc c'était un ordre religieux, donc ces hôpitaux, on les a nommés des charités par métonymie. C'était les frères et les sœurs de la charité, donc on a dit que c'était des charités.
Donc il y avait deux types de lieux d'accueil, les hôpitaux et les charités. L'un était plutôt public et l'autre était plutôt religieux.
Voilà,
c'est
exactement.
Bien ça. Mais alors, Benjamin Roxel, pourquoi c'est l'hôpital qui se moque de la charité?
Alors,
Parce que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, en fait.
Exactement. Et donc, pour connaître l'origine de notre expression, il faut aller vraiment précisément à Lyon. Car ce ne serait pas n'importe quel hôpital et ce ne serait pas n'importe quelle charité. Ce serait l'hospice de la charité et l'hôpital de l'Hôtel Dieu qui, au XVIIIe siècle, était en rivalité pour avoir le taux de mortalité le plus bas et donc récolter des dons.
Alors, des synonymes de cette expression, c'est pas facile. Hein, j'ai trouvé, c'est l'appel qui se moque du fourgon ou c'est le poil qui se moque du chaudron. Est-ce que vous avez trouvé mieux?
J'en ai trouvé d'autres que je ne connaissais pas. Alors, j'ai trouvé des expressions très proches. C'est l'hôpital qui se moque de l'infirmerie, c'est l'église qui se moque de la charité. Donc là, on est assez proche. Mm-hmm. D'autres expressions que je ne connaissais pas forcément, c'est le poney qui se fout du cheval. Ou encore, bon là, c'est vraiment très, très imagé, c'est le camembert qui dit au roquefort, tu pues.
Ah, celle-là, je la connaissais. Bon, et bien, en arabe, on dit c'est l'écorché qui se moque de l'égorgé, beaucoup moins réjouissant.
Ah oui.
Et la dépecée se pâme de rire. Quant au Mexique, c'est l'âne qui parle d'oreille. Voilà, pour montrer la chose dérisoire. Et il y en a une que j'adore. En Hongrie, on dit « c'est le hibou qui dit au moineau qu'il a une grosse tête ». Elle est mignonne.
Très mignon.
Merci Benjamin Roxel d'être venu dans la puce pour nous apporter vos lumières sur cette expression. Une expression que vous pouvez retrouver sur le site de RFI et sur celui du Français Facile, mais également sur le blog du Robert.
Dis-moi Robert.
Dis-moi Robert. Merci Benjamin et à très bientôt autour d'une nouvelle expression.
Merci Lucie.
Merci Lucie, merci Benjamin Roxel. On va donc vous retrouver régulièrement dans la puce et dans cette émission puisque le Robert est dorénavant partenaire de cette chronique. Merci beaucoup aussi à vous Clément Poiré pour cette très belle mise en scène et votre venue dans l'émission mise en scène donc de L'Avare au Théâtre de la Tempête. C'est jusqu'au 20 octobre, puis en tournée en France. De vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve demain bien sûr, même heure, même fréquence.